Et puis, à côté de moi, mon ami Hervé Jubert, pour son polar. Alors, je suis désolée, j'ai pas le vrai original, parce que moi, le vrai original, il a la grande couverture comme ça. C'était l'édition que nous avait envoyé l'éditeur pour qu'on puisse travailler dessus, parce que le roman est sorti ce mois-ci, en fait, et qui s'appelle Fondue au noir. Voilà. Donc, je vais commencer avec Jackie Scharzmann, qui ne fait rien comme personne, puisqu'il adore prendre des pseudonymes et se glisser dans la peau de gens qui existent déjà. Donc, dans son roman d'avant, il s'appelait François Feldman, pour ceux qui ont connu les années 80. Voilà, la référence. Et cette fois-ci, il nous revient donc avec Casso, ou son héros, et un petit peu lui peut-être, il va nous dire, et dans la peau de Mathieu Kassovitz, et le sosie de Mathieu Kassovitz. Alors ça, c'est une super aubaine. Et donc, dans ce roman, donc Casso, le sosie, va retourner chez lui pour une raison qui n'est pas drôle, puisque il retourne à Besançon, à Bezac, pour les intimes, et s'occuper de sa maman qui commence à avoir des signes d'Alzheimer. Et donc, voilà, il revient sur son passé, sa jeunesse, en fait, dans une ville où il a grandi, où il a laissé tous ses potes dans cette ville, et il va les retrouver. Et quand même, il va quand même continuer dans cette ville à s'adonner à son activité préférée, c'est-à-dire être le sosie de Kassovitz. Sauf que il est le sosie de Kassovitz, mais en fait, il se fait passer pour Kassovitz. Et afin de récolter quelques fonds, il est en train de travailler sur le tournage de la N2, parce que ça va marcher, forcément. Et donc, effectivement, on est dans la grosse, grosse, grosse arnaque. Et à se faire plein de fric, voilà, illégalement. Et dans ce roman, qui est à la fois... Alors, c'est vrai que c'est très drôle. C'est toujours très drôle ce que tu écris, les situations, les personnages. L'écriture est délicieuse parce qu'on est dans les dialogues entre Audiard et Frédéric Dard. Voilà, j'ai noté quelques passages. Je pourrais vous lire tout à l'heure quelques tirades qui sont assez délicieuses. Et en même temps, sur un fond difficile et douloureux, sur accompagner ses parents en fin de vie, c'est pas toujours facile. Sur les poteaux qu'on a laissés il y a quelques années, qui ont changé, qui ont évolué, on les retrouve pas toujours comme on les aurait aimés. Et puis il va tomber sur une super pépée. Et les mauvaises histoires, les malheurs vont commencer à arriver par là. Voilà. Mais je vais te laisser nous en dire un peu plus. Et puis, comment tu as travaillé ce roman et quelle idée d'aller chercher Casso, quoi.
Déjà, moi, je suis plutôt... J'aime bien le parcours, la carrière, le personnage de Mathieu Kassovitz. Il se trouve, alors, c'est plus trop évident maintenant, mais quand j'étais jeune, je ressemblais un peu. Et on m'a pris pour lui dans la rue, j'étais à Grasse, je crois, mais il y a 20 ans. Et je me souviens m'être dit, tiens, ça doit être marrant d'être le sosie parfait d'une star. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on passe sa vie à dire non, c'est pas moi ? Ou est-ce qu'on dit, oui. Et puis du coup, l'intérêt, c'est en se faisant passer pour lui, c'est de monter des arnaques, des fausses productions de cinéma. Et donc évidemment, vient un jour où on se dit qu'il doit produire la N2. Voilà. Et donc détourner des budgets de grosses productions. Donc ça, c'est un peu le pitch de départ. Mais moi, je me suis amusé aussi. C'est presque plus un roman sur Besançon, donc sur cette petite ville que personne ne sait situer sur une carte. félicitations.
Il y a un fan club.
Voilà. Non, mais ça fait 4 ou 5 ans que je fais des salons du livre et partout en France. Et à chaque fois, quand je dis que je suis de Besançon, les gens sourient bêtement. Et ils disent « Ah oui !» Donc les gens situent ça vaguement vers la Suisse. Voilà, en haut à droite, quoi. Ouais. Mais donc c'était un peu pour rendre justice à tous mes amis bisontins. Et non, mais je me suis amusé à faire revenir un type 15 ou 20 ans après dans la ville où il a été adolescent, étudiant. Et il revisite sa ville, voilà, qu'il a perdu depuis 20 ans. Et donc j'ai refait un inventaire des bars, des restaurants, qu'est-ce qui a ouvert, qu'est-ce qui a fermé, des souvenirs. Et puis ça raconte un peu qu'est-ce que c'était d'être étudiant dans les années 90-2000 dans une ville comme Besançon. Voilà. Et mais sinon, il y a des gens qui m'ont dit c'est génial d'avoir fait un truc, un roman sur Alzheimer. Alors, ce que j'avais pas trop anticipé, mais effectivement, le personnage de la mère qui, moi, au départ, était plutôt un ressort pour le faire revenir dans cette ville. Je me suis un petit peu attaché à cette maman. Elle a pris de l'ampleur un peu.
Oui, mais en même temps, cette maman, c'est vrai qu'elle commence à avoir Alzheimer, mais raconte-nous de quelle façon, parce qu'en fait, elle prend son... Voilà, là aussi, il y a de la malice.
Parce qu'elle est en robe de chambre à 4h du matin en ville, ouais.
Voilà, elle prend son fils quand même pour...
Oui, elle pense que son fils, c'est Nagui. Donc,
alors qu'il y a la télé qui vient jamais la voir.
Voilà, donc salon. Elle regarde tout le temps l'émission du midi qui est, j'ai oublié le nom, mais chacun veut prendre sa place. Et puis elle se plaint parce qu'il vient jamais la voir. Et puis alors elle le corrige, elle dit ouais ça j'aime pas trop quand il fait ça. J'imagine qu'il fait pareil. Moi j'utilise vraiment ce que j'ai sous les yeux dans la vraie vie parce que ma belle-mère elle regarde Nagui tous les midis puis elle est tout en train de pester sur.
Elle va être contente.
Bah oui. Elle dit souvent il m'énerve quand il dit ça et alors qu'elle le regarde tout le temps donc c'est il y a une espèce de relation mère-fils qui n'existe pas, mais donc j'ai utilisé ça. Alors elle a lu le bouquin, hein, elle me parle toujours. C'est
bon, ça va.
Tout se passe bien, mais non, mais ça m'amuse. Et c'est pareil, la mère Alzheimer. Moi, je me suis retrouvé il y a 10 ans à Lyon. Je rentrais d'une soirée, il était 2-3 heures du matin, j'avais un peu bu, bon. Et je suis tombé sur une femme de, je pense, 80 ans, qui était comme ça en ville. Je me suis dit, alors là, cette dame n'a rien à faire là. Et effectivement, c'était pour moi, en fait, hein, parce que elle était, je pense qu'elle avait perdu un peu la tête et elle se baladait au milieu de la nuit. Alors non, mais en plus, j'étais bourré, en fait. Et je me suis retrouvé à lui dire, non mais madame, vous habitez où? Bah, je sais pas. Donc là,
moi non plus.
Ça commence très fort. Et elle avait son sac à main. Alors, je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre de fouiller dans votre sac à main, madame? Et puis je me suis retrouvé avec son chéquier. Je me suis dit, putain, s'il y a des flics qui arrivent là.
Au voleur.
Je vais me faire arrêter, quoi. Et finalement, donc, j'ai vu l'adresse, j'ai ramené devant chez elle. Bon, sa fille arrive à ce moment-là. Elle avait dû l'appeler avant, bon, peu importe. Mais pareil, tout de suite, moi, pour moi, ça, c'est un roman. C'est ou un film, ou peu importe. Mais il y a un début de... Donc voilà, donc il y a 20 ans, on me prend pour Katowice dans la rue. Il y a 10 ans, je ramasse une dame. C'est l'histoire de ça. Voilà.
Donc autant vous dire qu'à tous les chapitres, à tous les coins de paragraphe, voilà, on est dans la douce dinguerie de Jackie Schwartzman qui... voilà, qui nous régale. Alors, je vais quand même craquer et vous lire quand même l'arrivée de Casso à Montbéliard, à Besançon, pardon.
Ah ouais, attention. Hein.
Ouais, je me trompe. Ouais, parce que j'ai la famille là-bas aussi, moite-moite. Et puis, alors, on mélange pas. Voilà. mes craintes étaient infondées. Je n'ai pas parcouru 20 mètres que l'accent franc-comtois des piétons que je croise me fait déjà saigner les oreilles. Parce que les gens d'ici n'ont pas la bouche comme ailleurs. Et une fois en ville, je constate que, définitivement, peu de choses ont évolué. Des rebeux rebottent, la casquette Nike sur la calvitie, les bourrelets dans le maillot Qatar Airways, accompagnés de leur copine blanche un peu grasse, la mèche blonde collée sur le front et le regard affectueux d'un setter irlandais après la chasse. Des trentenaires efféminés et barbus décorent les terrasses de bars aux anciennes anglophones, dignes de noms de fleuristes. Et voilà, on est dans l'univers... voilà, fleuri. Et moi, j'ai adoré, je me dis... Quelle entrée en matière, le gars il revient 20 ans après à Besançon et voilà, la description qu'il fait. Et là, voilà, je trouve que Audiard il peut être fier, il a fait des enfants.
Ouais. Non mais du coup je ne peux plus traverser Besançon.
J'imagine, ouais, j'imagine qu'après ça colle aux chaussures. Hein.
Non mais les gens ont plutôt de l'humour et du second degré, mais le plus important c'est l'accent. Ouais.
Ouais, je l'ai pas. Alors là, pas du tout. Je suis désolée, je suis née à Montpellier.
Non, mais moi, je l'ai pas non plus. Et c'est.
Mais l'accent est dur.
C'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, c'est de ne pas avoir l'accent de chez moi. Ouais, je pense. Mais vous n'avez pas l'accent, madame. Un petit peu. Ah oui, là. Il y a quelque chose.
quelque chose.
Finalement.
Non, mais dans ma famille, il y en a plein qui ont l'accent. Et le combat de ma vie, c'est que mes deux filles ne l'aient pas. Voilà. Donc je les reprends dès que ça...
En même temps, tu les installes à Besançon, c'est assez pervers.
Ouais, oui, pour des petites Lyonnaises, ouais, oui.
Et donc, dans le roman, notre casseau, il va rencontrer Zoé. Et alors là, c'est le début de ses malheurs.
Ben oui, c'est elle qui le fait changer de division, en quelque sorte. Parce que lui, il fait des petites arnaques.
Voilà, il est Mathieu Kassovitz, mais bon, il va pas taper dans les grands cheptels, mais là, du coup...
Et c'est elle qui lui dit, mais tu dois produire la N2. Enfin, réfléchis, tu as un génie qui est une ressemblance, on ne t'y peut rien, mais il faut l'utiliser. Et puis, il faut passer chez les grands, quoi. Et à partir du moment où elle lui met ça en tête, lui s'en persuade, il est d'accord et il commence de le faire. Et là, c'est là que les choses
se gâter assez vite.
Se compliquent un peu, ouais.
Parce que de escroc à la petite semaine, et là, ils vont faire un gros, gros plan d'envergure.
Voilà, ils se retrouvent notamment à dealer avec un producteur qui n'est pas Luc Besson, mais... Enfin, moi, dans ma tête, quand j'écrivais, je voyais Luc Besson. Et voilà, du coup, il doit se retrouver à utiliser un langage de production de cinéma qu'il ne maîtrise pas forcément.
Et puis, finalement, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que quand on nage à parmi les requins, il y a toujours plus gros requins que soi. Quoi. Ça pourrait être un peu la morale du
livre. Voilà.
C'est le danger. Ouais. Et après, je vais revenir, parce qu'on a, encore un petit peu de temps, sur le scénario de la bande dessinée. Et là, alors on est dans le monde du travail, mais dans ce que le monde du travail peut avoir d'absurde et d'avilissant, et à quel point le héros de cette bande dessinée va essayer de se rebeller en fait dans le système. Et donc voilà, tu vas nous en dire un peu plus parce que c'est une partie de vécu.
Oui, voilà, jusqu'en 2019, je travaillais chez Alstom, donc dans l'industrie, alors j'étais dans des bureaux. Et depuis quelques années, il y a un service qui prend de plus en plus d'importance dans les entreprises, c'est l'EHS. Donc c'est environnement, hygiène, sécurité, qui est très important, notamment pour... nous, on avait des gars qui bossaient sur des postes électriques, des techniciens. Donc là, de faire attention aux règles de sécurité, ça peut sauver une vie. Mais on nous appliquait les mêmes exigences dans les bureaux. Et alors moi, je disais souvent à la responsable qu'à part me faire attaquer par une agrafeuse, j'avais quand même du mal de voir le... Mais petit à petit, on nous a imposé des choses absurdes. Notamment, on nous forçait à déclarer des presque accidents.
Ah mais c'est quand même une invention. Ça, je me demandais si c'était vrai.
Ah, c'est vrai, ça. Ouais, oui.
C'est juste incroyable. Parce qu'il y a quand même une personne qui est recrutée par les RH pour surveiller tout ça.
Oui,
et
donc, un presque accident, comme son nom l'indique, ce n'est pas un accident, mais c'est vraiment pas passé loin.
Et c'est le délire avec les escaliers là, et la rampe d'escalier.
Oui, alors ça, c'est dans une autre entreprise dans laquelle j'étais, où il y avait une femme, je ne sais plus où en France... qui s'était cassé le sacrum en tombant d'un escalier. Donc déjà, on a tous appris ce qu'était que le sacrum, premier point. Et on nous a fait un mail pour nous expliquer comment descendre des escaliers, voilà. En toute sécurité. Alors, je crois que j'étais le seul à dire, mais j'ai 40 ans, je sais bien descendre des escaliers, je crois. Enfin voilà, mais le plus drôle, c'était vraiment ces presque accidents. Et ce qui n'était pas drôle, c'est qu'on devait en déclarer, je crois, 3 par an chacun.
C'est ça, parce qu'il y a des quotas.
Oui, et l'intéressement, les primes de fin d'année, c'était un des critères. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour imaginer. Donc, j'ai une copine, une fois, elle m'a dit « Ah, super, ce matin, je me suis cogné le tibia contre mon tiroir. »
Accident.
Parce qu'elle avait laissé son tiroir ouvert, elle s'est levée, elle s'est cognée le tibia. Elle fait « Génial, j'ai un presque accident. » Ah non, mais c'était... Du coup, elle a fait un petit mail... Ah bah voilà, moi ce matin, quand même, je me suis fait mal au tibia. Hein. Et donc, on a reçu tous un mail en disant, il faut fermer vos tiroirs.
Attention aux tiroirs. Voilà. Avant de se lever de sa chaise, on pense à fermer son tiroir.
Voilà. Donc ça, moi, c'était... Alors moi, j'avais proposé, parce que j'estimais qu'on pouvait tomber entre le portail d'entrée de la boîte et l'entrée des bureaux, donc j'avais proposé qu'on soit élitreillé en hélicoptère. pour ne qu'il y ait aucun risque de chute. Donc, alors, je m'entendais très bien avec mon chef. Il m'a dit, Jackie, tu sors. Enfin, voilà, c'était... ça va pas le faire. Mais, et donc, à cette époque, j'avais rencontré Morgan Navarro, le dessinateur, dans un salon 1 ou 2 ans avant. On voulait faire un truc ensemble, on savait pas trop quoi. Et puis, un coup, on se téléphonait, puis je raconte une des anecdotes là, et il me croyait pas. Et puis c'est lui qui m'a dit mais faut faire un truc là-dessus, c'est trop dément quoi. Voilà, donc l'idée de départ c'est ça. Et du coup après c'était marrant parce que moi j'étais donc toujours chez Alstom, je prenais des photos pour lui envoyer et à chaque réunion je notais. On avait une chef aussi qui utilisait que des mots anglais.
Ah ouais, c'était tendance à un moment donné, c'était très tendance dans les toujours, entreprises. Hein. Ah ouais, c'est toujours ouais. Ça faisait bien de parler avec des
mots. Elle parle des sales au lieu de dire les ventes. Enfin et parfois des termes où il y a plus de syllabes. Il n'y a même pas un gain de temps ou de. Ah non, c'est assez.
Et puis l'histoire des places de parking aussi, c'était pas mal.
Bah oui, on nous forçait à nous garer en marche arrière le matin sur le parking. Alors moi, pendant des mois, je me garais en marche avant. J'étais le seul. J'étais un punk.
Comment être punk dans l'entreprise?
Non, mais et puis l'argument, la fille qui s'occupait de tout ça, elle c'était une gourou, prenait ça au sérieux. Et l'argument, c'était que le soir, on est un peu plus fatigué. Donc quand on part en marche arrière, on peut ne pas voir un piéton et l'écraser. C'est ça. Voilà.
Une personne de petite taille.
Voilà. Ouais. Oui, non, mais que répondre à ça? Ouais, mais. Oui, peut-être. Mais du coup, moi, je me suis un peu braqué contre toutes ces directives, tous ces. Encore une fois, il y a des métiers où c'est important. Quand nos gars allaient sur un poste électrique où il y a je sais pas combien de milliers de volts, c'est bien de faire gaffe, de baliser, voilà. Mais de transmettre ça aux gens des bureaux, c'est absurde.
Ouais, et puis du coup, ton personnage, il a qu'une envie, c'est transgresser ses règles, en fait. Et donc, il est quand même super titillé parce qu'il y a une ampoule qui est grillée depuis un moment. Et
voilà. Ouais, non, mais ça,
il va vouloir aller la changer.
Mais ça, je l'ai vécu, moi, chez Alstom, la fille de l'accueil, Mélanie, je me souviens. C'était pas une ampoule, c'était une horloge comme ça,
qui était derrière. La pile, ouais. Il y avait plus de pile.
Elle a dit, je vais changer la pile. Et la meuf lui a dit, mais non, tu peux pas, t'as passé le truc, travailler en hauteur. Ben non. Et elle n'a pas voulu. Et ils ont fait venir une entreprise extérieure pour qu'un mec monte sur un escabeau et qu'il change une pile. Enfin,
en fait, moi quand j'ai découvert la BD, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je me suis dit, mais vraiment, quelle imagination, jusqu'où on pourrait imaginer aller dans le monde du travail. Tout à l'heure, je lui en parle, il me dit, mais non, mais tout est vrai. Et là... Et là, les bras m'en tombent quand même, parce qu'il faut absolument lire ce texte et cette BD, mais c'est absolument dingue, quoi. C'est dingue de dinguerie, quoi. On vit dans un monde qui nous fait marcher sur la tête.
Le personnage principal, lui, c'est un gars qui veut bosser, qui aime bien son boulot. Ouais, voilà, il trouve ça absurde, il trouve qu'on l'empêche de travailler, finalement.
Ouais, c'est ça, carrément.
C'est pas un rebelle tant que ça, quoi.
Non, mais... Le fait de faire des rapports sans arrêt sur tout et n'importe quoi, ça l'empêche de bosser, quoi. Puis le fait de dire que là, on arrête tout parce qu'on va à la démonstration de descente des escaliers, là, on arrête tout parce qu'il faut aller garer les voitures dans le bon sens. Enfin, c'est absurde, l'absurdité de ce monde du travail, de ces grandes entreprises. Et du coup, cette BD, ça a un côté un peu salvateur et qui fait du bien, parce qu'on se dit que quand même, dans ces rouages, il y en a quand même toujours un qui va vouloir aller changer l'ampoule ou mettre les ramettes de papier dans l'imprimante, quand même.
À l'envers, voilà.
Donc je ne saurais que vous conseiller ces deux ouvrages absolument drôlissime et on l'a dit dans Casso, il a pas fait un livre sur Alzheimer, faut pas exagérer, mais il y a quand même le côté ce côté humain aussi. Moi, ce que j'ai aimé dans tes personnages et dans le personnage de Casso, c'est son humanité, en fait. C'est un mec qui il aime sa mère et il veut pas qu'elle souffre, il revient voir ses potes, il y en a qui sont un peu miteux, quoi. Ils ont pas forcément la gagne, mais en même temps c'est les poteaux d'avant, quoi. Donc voilà, il y a ce côté aussi où
celui qui a le plus réussi, il est médecin légiste et alcoolique, il cache des bouteilles de vin à la morgue dans les tiroirs. Donc non, il a gardé un tiroir pour les cadavres, pour ses bouteilles.
Exactement. Voilà. Elle sent bien au frais.
Et c'est une machine à remonter. Il explique que c'est une machine à remonter dans le temps parce qu'il y a les millésimes, voilà, les plus anciens au fond. Puis quand il prend A89, je me suis marié, c'était super. Voilà.
Il y a tellement de détails drôles et d'histoires drôles que voilà, on s'ennuie jamais une seconde et aussi on se retrouve des fois un peu dans des comportements qu'on peut avoir avec sa famille ou avec ses proches. On n'est pas toujours tendre, mais finalement c'est parce qu'on les aime, quoi.
Oui,
il y a une grosse tendresse en fait pour ces personnages et ces héros. Et ouais, voilà. Donc à conseiller, à mettre dans toutes les mains parce que ça peut être lu vraiment par tout le monde. C'est un chouette moment de lecture. Et je t'en remercie.
Merci.
Et puis on va donner un petit peu la parole à Hervé.
Un peu.
Il la veut pas beaucoup. Ouais, hein. On a fini. Non, quand même, sois raisonnable. Alors, en fait, Hervé, c'est un écrivain touche à tout. Et moi, j'ai connu ses romans il y a longtemps, quand il écrivait du steampunk, du fantastique et de la SF. Et c'est comme ça que tu t'es fait connaître, d'ailleurs. Hein. Attends, on va partager le micro, parce que là, j'ai l'impression d'être un peu égoïste.
Bah, je suis là, non ?
Ah oui, celui-là, ouais.
Et ça va, côté Covid, j'étais la violence.
Et donc, voilà, il a commencé à écrire pour... ni pour la jeunesse, ni pour les adultes. En fait, il a écrit ses premiers romans... de fantastique et de steampunk, en sachant pas destination d'un public particulier, c'est ce que tu nous as dit.
Non, je me faisais plaisir.
Voilà. Et puis, ça a été édité d'abord dans une maison d'édition jeunesse, chez Albin Michel, la première trilogie. Et puis, elle a été publiée simultanément, je crois.
Je l'avais écrit, le premier bouquin qui a marché, c'était Le Quadrille des Assassins, ce que je disais au troisième avant-hier. Ouais. Et je l'avais écrit pour les adultes, il a été publié en jeunesse et il était republié chez les adultes. Je comprends rien à l'édition, mais mais ça, c'est comme ça.
Voilà. Et puis, tu t'es essayé avec plusieurs séries comme ça sur le fantastique et le steampunk. Alors pour les novices, le steampunk, en fait, c'est du fantastique, la science-fiction, mais ça, la particularité de se passer à Paris ou à Londres à l'époque de la révolution industrielle, parce que voilà, steam, c'est la vapeur en anglais.
C'est du punk à vapeur. Ouais.
C'est du punk à vapeur. Et donc c'est toute cette fantasmagorie de personnages qui peuvent avoir des pouvoirs. Il y a un petit côté, mais il peut y avoir de la magie ou de la sorcellerie.
Et de la mécanique aussi.
Et beaucoup de mécanique, voilà. Des ballons dirigeables, des trains, etc. Et ce qui est super dans cette histoire, c'est que du coup, toi, ça te permet, parce que tu as fait des études d'histoire de l'art et des études de lettres, de caser là-dedans aussi de l'histoire. Et la série Blanche, qui est une jeune femme qui va se trouver mêlée à faire des enquêtes.
Ouais, Paris, 1870, siège des Prussiens, et puis après la Commune
de Paris. Voilà.
Mais Paris, j'ai vécu 10 ans à Paris, j'ai adoré cette ville, qui a encore un gros, gros côté 19e, et j'ai plongé dedans. Quoi. Voilà, j'ai plongé dedans.
Et du coup, tu nous restitues ça avec virtuosité, parce qu'il ne dit pas comme ça, il est tout timide, mais il écrit très, très bien. Je peux le dire, parce que j'ai lu tout ce qu'il a écrit, il a une plume magnifique, il sait très, très bien écrire et très bien raconter les histoires, surtout.
Arrête.
Non, mais écoute.
Chut.
Et du coup, non, c'est vrai. Et du coup, moi, j'ai aimé ce mélange. J'étais très surprise au départ. Je me disais, c'est pas trop pour moi, cette littérature. Et en fait, c'est tellement bien écrit. Et puis, le côté historique de la Commune aussi, c'est vraiment passionnant. Et avoir plongé une héroïne femme, là, hier, on avait une table ronde sur le féminisme. Ben voilà, Blanche, elle aurait pu être dans cette table ronde-là aussi, parce que c'est un personnage qui va acquérir, qui va grandir aussi, parce qu'on la suit sur 3 épisodes. Donc, pendant la Commune, mais aussi après. Et du coup, elle va grandir, elle aussi, elle va s'émanciper aussi à travers cette histoire de France. Et c'est un personnage très, très lumineux et magnifique. Et c'est un personnage d'actualité. Et il est intervenu, comme il a dit, auprès de mes élèves au collège. Et il y a des filles, et des garçons qui avaient lu ce livre et qui disaient que voilà, c'était un personnage solaire. Et Blanche, elle est solaire.
Et après, les élèves me demandaient aussi pourquoi. Parce que c'est vrai, j'ai toujours des héros féminins. Depuis 15 ans, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Chaque fois que j'attaque un bouquin, je me pose quand même la question. T'es un garçon, tu pourrais incarner un garçon. Et c'est toujours la fille en premier plan. Et un des élèves m'a demandé, mais pourquoi, monsieur Et s'il n'a pas à répondre que on a tous une part féminine, mon cher Jackie. Voilà, je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en plus c'est des héroïnes mais super fortes en plus, c'est pas c'est chaque fois des personnages avec une identité très très forte, avec des personnages volontaristes aussi qui font avancer l'histoire, qui font avancer leur propre histoire, leurs conditions. Et ça, c'est très, très chouette. Et donc, dans ton dernier roman, on passe complètement à autre chose, parce que je vous ai dit qu'il était protéiforme. Là, il fait plein de choses. Il a écrit du polar, il a écrit...
polar, fantastique, polar historique, science-fiction.
Science-fiction aussi, ouais, ouais, une série aussi qui fait penser un peu à Fantomas, là, avec un héros qui est à la fois un peu futuriste et une enquête policière. Et puis ces deux derniers romans qui sont pour la jeunesse et grands ados, mais qu'on a énormément de plaisir à lire aussi. Celui d'avant qui s'appelle Zad.
Drone Boy.
Drone Boy, oui.
Qui se passe à, comme je vis à Gaillac dans le Tarn, et c'était là où il y avait le projet de barrage de Sivens, dont vous avez peut-être entendu parler, avec la mort de Rémi Fraisse il y a quelques années. Et comme Gaillac est devenu une zone de guerre, quoi. Et puis en un mois, on a vu les pros et les anti commencer à se foutre sur la tronche au marché du vendredi matin. Oui. Et les hélicos de la gendarmerie qui passaient, et la ville bouclée des fois, comme ça, parce que ça commençait à chauffer un peu trop. Donc je me disais, c'est quand même un beau cadre pour un roman ado, quoi.
Et du coup, ouais, et c'est un roman qui a marché très très bien auprès des élèves parce que ils se sont identifiés tout de suite au personnage qui est Paul, je crois qu'il s'appelle.
Paul, ouais, qui est le fils du gardien de la maison forestière, donc qui est au cœur du combat, quoi.
Et il doit traverser la ZAD tous les jours pour aller rejoindre son père et la maison forestière. Et il est passionné de drones, en fait. Et il s'entraîne, en fait, dans la forêt pour un concours, pour éviter les arbres et faire des parcours, etc. Et évidemment, il va enregistrer quelque chose avec son drone
qu'il n'aurait pas dû filmer.
Et là, après, on part dans l'histoire plus politique, du coup, parce qu'il y a quand même un fond politique. Et les élèves étaient super intéressés parce que, la plupart n'avaient pas suivi cette histoire, mais du coup, comme ils donnaient des indications, ils m'ont demandé, mais ça s'est vraiment passé. Et donc, du coup, on est allé chercher les infos sur, voilà, sur ce qui était réellement passé, sur le site. Et en fait, les jeunes, ça les intéresse, quoi. C'est-à-dire que vous plongez un ado dans une situation d'aujourd'hui où ça se passe vraiment, et ça démarre au quart de tour. Et du coup, ils se sont posé plein de questions sur ce qu'était une ZAD, pourquoi on pouvait lutter, comment on pouvait lutter, etc. Pourquoi il y avait des pros et des anti, pourquoi aussi, là, pour le coup, dans l'histoire, il tombe amoureuse d'une fille dont le père est le chef du commando CRS.
Oui, la gendarmerie locale, elle est aussi en plein cœur du combat. Ça en fait une révoltée de base.
Et du coup, on a deux personnages qui sont un peu comme des Roméo et Juliette de camps opposés qui vont aller vivre leur histoire. Et du coup, ça marche super bien. Et dans le dernier, donc, Fondu au noir, on change de cadre. Et là, on est dans les cuisines d'un bac pro.
Lycée hôtelier.
Ouais.
On suit Lola qui ne parle plus depuis l'âge de 10 ans. On ne sait pas pourquoi. Elle s'est arrêtée de parler. Elle est mutique. Mais qui est aussi très lumineuse et qui se découvre une vocation pour la cuisine pendant le premier confinement. Alors, j'ai hésité à mettre le Covid, je me suis dit, bon, ça va générer des situations cocasses, allons-y. Ça parlera à tout le monde.
Exactement.
Et en fait, je suis parti dans le bouquin parce que j'ai un boulot à côté qui me plaît énormément. Quand j'étais petit, je voulais être auteur et conduire des poids lourds, parce que j'écoutais Max Meynier, les routiers sont sympas, sous ma couette. Et je conduis des cars scolaires. Et j'écoute les mômes, en fait, dans mon car, le matin et le soir. J'ai des lycéens, des collégiens, etc. Et une fois, je les entends parler cuisine. Ils s'échangent des recettes de cuisine. Et toi, tu fais comment? Tu fais quelle sauce? Naninana. Et j'ai dit, après, j'ai fait mes petits sondages. Quand on rencontre les classes, est-ce que vous cuisinez? Ah oui, oui, oui. Alors, surtout des pâtisseries, mais ils y vont, quoi. Et j'ai cherché, j'ai regardé s'il n'y avait pas un bouquin sur le sujet pour les ados, sur la cuisine, parce qu'avec les top chefs, machin, ils regardent tous, et ça n'existait pas, donc on se lance, quoi. On se lance. Et j'ai pris contact avec mon lycée hôtelier du coin, du Tarn à Mazamet, au pied de la Montagne Noire, donc la prof doc du CDI qui m'a accueilli gentiment, qui a présenté la
prof. Elles sont bien, les profs doc.
Elles sont super. Prof de restauration, j'ai suivi une brigade, une bande de 12 terminales qui préparait un repas particulier pour le restaurant d'application, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et j'ai passé 6 heures avec eux, mais génial. Je les regardais bosser. Bon, j'avais ça s'appelle une fraise, je crois, ou une charlotte, je sais plus.
Une charlotte.
Voilà. Charlotte à la fraise. C'est mon côté un peu dyslexique. J'ai mis mes petits chaussons, ma tenue. Je notais ce qui se racontait. Je notais les gestes techniques et tout. Mais je me dis, il y a un roman là. Il y a un roman parce que c'est une bande d'ados. Il y a des filles garçons. Il y a de la compète. On se tape la bourre. Et puis, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est que, comme tu disais, bon, je touche à tout, mais c'est déjà un univers que je ne connaissais pas et c'est un vocabulaire que je n'avais jamais utilisé, quoi. Faire isoler des champignons, rien que d'écrire des termes comme ça, je me suis fait une liste de verbes de cuisine. J'ai dit, oh, je vais pouvoir écrire sauteuse, fait tout.
C'est ça, et alors il a truffé toutes les entrées de chapitre d'un geste de cuisine. Ajouter des pelures de truffes. Voilà. On est dans la recette là déjà. chaque chapitre commence comme ça. Conserver les têtes et décortiquer les queues. Voilà. En plus, ça peut être drôle. Après, j'ai dit aux élèves, il y a parfois un double sens à ce qui est écrit. Et
souvent un double sens.
Qu'on prenne qui pourra. Et ça marche aussi. Ça les fait lire et ça les fait chercher. Ils disent, mais madame, là, c'est là qu'il faut lire un double sens. Je dis, bon, après, comme vous voulez.
À toi de voir.
Pas en classe, non. Bon, au CDI, ils ne sont pas en classe, alors ils peuvent se lâcher un peu.
Voilà, mais bon, je me suis fait plaisir, vraiment, comme d'habitude, mais là, dans le monde de la cuisine.
Voilà, mais pareil, on a. Alors. C'est un livre pour la jeunesse, mais voilà, franchement, il ne faut pas se refuser ce plaisir, même en tant qu'adulte, parce que ce qui est toujours très, très touchant, là aussi chez toi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tes personnages, quels qu'ils soient, même les plus insignifiants, ils sont toujours très fouillés, ils sont toujours très... voilà, tu nous les présentes, tu t'y attaches.
Oui, mais comme dit Jackie, enfin, nous tous, on s'attache. Enfin, ils existent, quoi. Moi, quand je retrouve mes personnages jusqu'à ce que le bouquin soit fini, c'est comme si je retrouvais des potes. Et puis quand c'est fini, surtout sur des séries, des trilogies, je suis triste.
Parce que
je
racontais
aux élèves qui m'avaient posé la question, et ça vous fait quoi quand vous abandonnez un personnage, quand vous savez, vous le reverrez pas. Je m'organise, j'appelle les potes au milieu de semaine pour leur donner rendez-vous le vendredi soir. J'écris ma dernière scène le vendredi et je me mets une mine. Parce que voilà. Voilà.
Ouais, mais c'est. Et du coup, dans ce livre-là, il y a aussi, en plus de l'histoire de la compétition, parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'en fait, il y en a deux de ces élèves qui vont être sélectionnés pour aller à l'émission télé sur le grill.
Le grill, qui est un pseudo top chef. Moi, je déteste la compétition. J'ai toujours détesté que ce soit en sport, les concours et les émissions top chef. Je ne supporte pas l'esprit de compète, donc je la défonce, quoi, l'émission.
Voilà. Voilà. et du coup, c'est assez drôle parce que là, il va prendre tous les travers qu'on peut trouver dans ce genre d'émission. Les profs qui coachent, parce que c'est ça, c'est du coaching, là, et qui coachent les gamins pour sortir qui va être le meilleur. Et du coup, les profs les mettent en compétition. Et forcément, c'est là où le polar va rentrer dedans parce que du coup, ça va pas bien se passer. Mm-mm. Il va y avoir des jalousies, etc. Mais enfin, tu les égratignes tous là, c'est jubilatoire en fait. Mm-mm. Parce que c'est méchant et c'est réaliste en plus.
Mais oui, non, mais j'invente rien.
Hein. Ah oui, je sais bien. Et donc, on s'attache. Donc, je revenais pour revenir à Lola, qui est cette jeune fille qui est l'héroïne de ce livre et qui ne parle pas. Et un jour, elle a arrêté de parler. Et là aussi, il y a une profondeur dans ce texte parce que on va s'attacher à elle et tu nous livres petit bout par petit bout sa vie de famille avec ses parents, avec ses frères. Mmh. Et puis pourquoi elle ne parle pas, parce que c'est quand même très intriguant. Elle communique avec ses camarades par son portable. Mmh.
Mais c'est en fait, je me suis imposé une contrainte. J'aime bien m'imposer des contraintes, comme tu parlais de Blanche avant. C'est une héroïne, 17 ans, au 19e siècle. Famille bourgeoise qui ne doit pas enquêter. Donc, avec toutes ces contraintes, on peut raconter des histoires. Lola, je voulais sans savoir avant qu'elle était mutique, je cherchais un handicap. Parce que je disais, bon, ça va être plus intéressant de faire vivre un personnage. Alors, j'étais parti sur un handicap plus physique, mais quand j'ai trouvé le mutisme, je dis, c'est bon. Et puis, ça va être intéressant au niveau de la narration. Comment on va la faire parler? Comment elle va se débrouiller, elle, dans les situations pour communiquer? Et c'est parti comme ça.
Ouais, et du coup, ça donne. Une profondeur supplémentaire à l'histoire et au texte parce que on s'attache à elle et en plus elle est attachante parce que elle est mutique mais en même temps c'est une jeune fille, c'est une jeune ado, elle a envie d'être amoureuse, elle a envie de vivre, elle a envie de réussir sa carrière, elle a envie de rencontrer des gens et en même temps il y a quelque chose qui s'est cassé un jour chez elle et personne peut l'aider, elle pense que personne peut l'aider. Et voilà, bon, on va pas dire ce qui lui est arrivé parce qu'il faut lire le livre, mais voilà, c'est à la fois mais comme chez toi Jackie, c'est à la fois voilà, c'est les personnages aussi, c'est les situations mais c'est les personnages qui font l'histoire aussi. Et que quand on donne de la profondeur et de l'existence à ces personnages, on est dans tout ce qui fait de nous des humains, quoi.
Puis on se laisse emporter. Je sais pas comment tu bosses, mais quand j'attaque une scène, je sais à peu près ce que je vais raconter une fois sur deux, mais sinon je sais pas. On se dit, voilà, ton casso, il va faire ci, il va faire ça. Je ne sais pas si toi, tu vas appliquer vraiment le plan auquel tu penses ou...
Attends, vas-y. Plus j'ai un plan.
Pardon.
Là, je suis en train de faire un roman. J'ai un plan. Je sais jusqu'où chaque chapitre, qu'est-ce qu'il va raconter. Enfin, pas forcément les chapitres, mais j'ai toutes les étapes. Il va se passer ça, ça, ça. Je connais les personnages. Mais c'est assez récent. Casso, je suis un peu parti comme ça. Ouais. Mais les personnages, c'est... Je crois, c'est, j'ai entendu Houellebecq dire un bon roman, c'est un bon personnage, déjà. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas ça...
T'es sûr. Et donc, je ne sais pas, aujourd'hui, on a un peu le temps par rapport à hier. Si vous voulez poser des questions, si vous souhaitez intervenir ou leur poser des questions.
C'est avec plaisir.
Vas-y.
Est-ce que le personnage de Casso, il est inspiré du rôle de Mathieu Kassovitz dans Un héros très discret?
Non, pas forcément. Mais c'est un film que j'adore. Oui, il y a ce côté un peu.
L'usurpation d'identité.
Voilà. Non, c'était pas. Mais je me suis amusé à mettre plein de références cinéma de films que j'aime et des références à Kassovitz aussi. Notamment Nagui, qui fait que je taille un peu parce que. Y a une scène dans Assassin, je ne sais pas si vous voyez ce film, où c'est quand Jean Carmet et Kassovitz vont chez un monsieur dans un pavillon et qu'il le tue. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, c'est une scène très lourde. Et à la télé, il y a un jeu débile présenté par Nagui avec le son à fond. Voilà, donc c'est des petits clins d'œil pour faire un peu... Céro. Et voilà, c'est pour montrer que je connais un peu aussi mon Kassovitz, quoi, quand même. Pardon ? Oui, il l'a lu, et je l'ai rencontré, moi, il y a un mois, là.
Ah, génial, et alors ?
Il est super.
Ouais ?
Il est aussi super en retard, mais... non, il est arrivé très en retard, il est sympathique, voilà, il a aimé, il s'est marré...
Et est-ce que quand on écrit, la question que je me posais, moi, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le nom de quelqu'un comme ça, écrire un livre en utilisant des noms des gens qui existent vraiment sans leur demander l'autorisation ? Ou tu leur as demandé, je ne sais pas.
Au départ, je voulais partir sur cette histoire de sosie, puis j'en ai beaucoup parlé avec mon éditrice, Gwenelle Denoyer. On se disait, est-ce que ce n'est pas casse-gueule, etc. Ouais. Donc on a beaucoup hésité au début. En même temps, là, c'est des préoccupations d'éditeur, mais elle me disait il faut que ce soit une figure internationale dans l'idée d'une vente des droits à l'étranger. Donc, il faut prendre un acteur qui, de toute façon, a une stature. Donc, il n'y en a pas 36. Hein, il y avait Guillaume Canet, Vincent Cassel, du Jardin. Ouais, voilà. Mais ça marchait qu'avec lui. Parce qu'en fait, il a une réputation. Enfin, voilà, il est un peu... c'est une grande gueule, quoi.
Ouais, puis il y a le côté mauvais garçon, bad boy un peu aussi.
Bad boy du cinéma, ouais, machin, c'était drôle avec lui. Ouais. Avec un type comme même Cassel ou du jardin, je trouve que l'image est un peu lisse. Enfin, voilà, ça... Oui, Casso, c'est... Enfin, toujours est-il qu'on s'est posé la question, on a hésité. Moi, j'ai fait un mail à son agent assez rapidement, en disant, voilà, je vais faire ça, vous en pensez quoi ? Elle a dit, super, Mathieu va vous appeler. Donc, c'était il y a un an, et je... Non, mais après, lui, il n'a pas que ça à faire, il est sur autre chose. Et au final, donc, mon éditrice a demandé au service juridique du Seuil, en disant, voilà, on projette ça. Et ils ont dit, mais rien à cirer, il n'y a pas de diffamation, on ne lui fait pas dire des horreurs. Donc, il n'y a pas de procès possible, en fait.
Nous, pour Fondue au Noir, on s'est posé la question avec l'éditeur, est-ce qu'on met Etchebest ? Mais l'idée, c'était vraiment de faire Top Chef et Chabès. Quand même. Donc, le service juridique nous demande de le contacter.
Oui. Ah ouais,
vous l'avez contacté.
Oui, mais on s'est fait renvoyer dans les cordes par son agente et de manière super sèche en disant Monsieur Chabès n'est pas propriétaire de son image, elle appartient à la société machin. Ouais. Et si vous faites quoi que ce soit sans accord, vous allez droit au procès, quoi.
D'accord.
Donc, on a inventé un cuisinier breton et c'est très bien comme ça. Voilà.
Ouais. C'est un type qui est agaçant, mais en fait, ouais, il l'est vraiment, quoi.
Oui,
il
apparemment, pas... oui. Okay. Oui,
oui. Enfin, j'ai travaillé dans la restauration pendant des années, dans les cuisines, tout ça. Enfin, j'étais serveur, mais je connais un peu les...
Puis on commence à parler du harcèlement, des seuls trucs qui se passent dans les arrières-cuisines, apparemment. Ouais, là, donc on se disait aussi, bon, s'il y a un truc qui sort sur Etchebest, un peu moche, en même temps que le bouquin, on va éviter.
Oui, c'est sage.
Ouais, ouais.
Mais nous, pour Casso, moi, j'étais quand le bouquin est sorti, j'étais un petit peu stressé quand même. Hein. Parce que je me dis, s'il le prend mal et qu'il s'énerve, voilà, justement, c'est à double tranchant. Et d'ailleurs, j'ai fait l'émission d'Antoine Decaune sur Inter, là.
Un pop-up, là.
Pop-up, ouais.
Excellent.
Et donc, avant l'émission, il me disait, mais il l'a lu, Casso ? Je dis, bah, on l'a fait envoyer à son agent, j'en sais rien. Il l'a reçu, mais lu, je sais pas. Enfin, voilà. Puis après, l'émission commence, il me dit, mais Kassovitz, il l'a lu. Alors, je me suis dit, mais...
Fais chier de conne.
Voilà, je lui ai dit, bah, je redis mon truc. Et là, il a dit, bah, on va lui demander. Et il était au téléphone.
Ah, excellent.
Ouais. Alors, mais là, ouais, il était... Voilà, c'était qui tout double. J'ai eu une petite tuée. Et puis, en fait, donc, plutôt positif. Mais avec lui, il aurait pu me démonter. Enfin, voilà, ça s'est bien passé.
Vous avez d'autres questions ? Vous voulez rajouter quelque chose, les garçons ? Non ?
Ah oui, ah. Je voudrais rajouter un truc sur Jackie, dont j'ai lu un de tes livres, qui est « Demain, c'est loin ».
Oui.
Parce que j'ai préparé cette rencontre, quand même.
Contrairement à moi.
Le père de M. Schwarzman. Non, qui est génial. Ce bouquin est génial. Et d'ailleurs, tu utilises l'image de Johnny Hallyday.
Oui.
En forme de tatouage. Mais
oui, c'est Shawnee, d'ailleurs.
Et je le lisais, alors je me suis fait ma première injection. Hein, donc j'ai été mon nom vaccinodrome au séquestre à Albi. Alors l'ambiance est assez bizarre, c'est un peu post-apocalyptique. Hein, on est attaqué par les zombies, on sait qu'on va se faire piquer, on ne sait pas comment on va réagir. Donc l'ambiance est lourde. Et je lisais ça dans la queue et je me marrais comme un tordu. Les gens me regardaient bizarrement. Donc merci, Jackie.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il pleut, on peut rester là, si vous voulez.
Oui, parce que là, je pense que c'est parti, là, ça y est, ouais.
En tout cas, merci, et puis donc, vous pouvez retrouver les auteurs sur les stands où il pleuvra pas.
Ou pas.
Ou pas. Ou à la librairie. Merci.
Merci.